Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. Dans une ambiance festive et décontractée, une ambiance proche de celle que décrivait Jo dans Le Péril Jeune.
Tu vois, il n'y a plus le haut, il n'y a plus le bas, il n'y a plus le nord, tu sais plus où est ta femme, tout ça c'est un bordel, mais agréable.
Vous l'avez deviné, et je reconnais bien là cet incroyable sens de la déduction typique des auditeurs d'Europe 1. Notre invité n'est autre que mon idole absolue. Son nouveau film, Deux mois, sort mercredi. Cédric Clapiche est avec nous. Bonjour Cédric Clapiche.
Bonjour.
Des applaudissements quand il n'y a pas de public, c'est dire si l'invité nous plaît. Alors, afin de ne pas sombrer d'entrée de jeu dans une forme de flagornerie qui pourrait vite devenir gênante, sachant que je suis à peu près dans le même état nerveux que mon petit-neveu quand Kylian Mbappé lui a dédicacé son ballon, je vais tenter de me raisonner. Après tout, qu'a fait de si notable Cédric Clapiche? Bon, alors oui, à part Le Péril Jeune, Chacun cherche son chat, Un air de famille... Oui, il a révélé Romain Duris, c'est vrai, mais bon, Romain Duris n'a pas fait une grande carrière après. Il a fait L'Auberge Espagnole, ça c'est vrai, bon, les poupées russes, Casse-tête chinois, oui, non, mais il a complètement raté le tournant des séries. Ah, c'est lui qui a fait la saison 1 de 10%, la meilleure? Ok, je ferme ma gueule alors, ok. C'est difficile de relativiser votre carrière quand même, Cédric Clapiche. C'est difficile. Difficile aussi peut-être de gérer l'attente qui repose sur votre nom à chaque sortie de film, Cédric Clapiche. Il y a une pression supplémentaire quand on a un nom comme le vôtre.
Pression pour qui?
Pour vous.
oui, parce que la sortie d'un film, c'est toujours un moment, enfin c'est surtout 2 ans de ma vie, c'est-à-dire que c'est 2 ans de travail, et donc il y a des étapes de travail qui font que le jour de la sortie, on a envie que les gens aillent voir le film. C'est vraiment un enjeu fort. En même temps, disons que là, c'est mon 13e long métrage, et donc du coup, on relativise un peu, disons, et donc j'essaye de rester zen.
Oui, vous avez l'air assez zen. On va parler de Deux mois, ce nouveau film que vous décrivez comme un conte urbain qui sort mercredi, mais d'abord, laissez-moi planter le décor de ces 2 heures. Vous avez vu Kill Bill? Vous n'avez qu'une vague idée du niveau de violence qui vous attend, car chaque après-midi, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 sont désormais en compétition. C'est à qui nous proposera l'info la plus étonnante, l'histoire la plus édifiante. Or, pour être élu en fin d'émission chroniqueur du jour, l'équivalent de leur César à eux, ils sont prêts à tout, ils ne reculent devant aucune mesquinerie. Je vous présente nos deux premiers compétiteurs, Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1, et Axel de Tarlet, de quelques années son aîné, spécialiste économie. Mathieu, avant qu'on ouvre les hostilités, un mot fair play quand même à l'égard de votre collègue Axel, qui débutera sa chronique dans 10 minutes.
Faut pas qu'il y ait pépin de santé d'ici là, on lui souhaite pas quand même.
Oui, on a dit pas l'âge, tout mais pas l'âge, Mathieu. Alors Mathieu, justement, avec quel sujet allez-vous tenter de séduire Cédric Clapiche, dont la voix comptera triple tout à l'heure?
Je vais vous parler de l'histoire du film d'Avzi Herzi. Je sais pas si vous vous rappelez d'Avzi Herzi, révélé chez Kechiche, qui a réalisé son premier film avec ses petites économies, un peu moins de 1000 euros. Sélection à Cannes, acheté par une chaîne de télé. Et la gloire, je vous raconte ça tout à l'heure.
Déjà, ça veut dire qu'on peut réaliser un film pour moins de 1000 euros.
Alors, quand on est Cédric Clapiche, non, parce qu'il y a besoin de gros moyens, mais quand on a Avzi Herzi, oui.
À ses côtés, Cédric, je vous présente donc Axel de Tarlet, Dauphin d'Or 2003 du meilleur journaliste économique. Autant dire que...
C'est pas non plus n'importe qui, quoi.
Axel, aujourd'hui, vous partez dans la compétition avec une longueur d'avance, puisque vous avez lu pour nous les 1232 pages du dernier livre de Thomas Piketty. Déjà, les avez-vous lus, parce que je vous connais.
Exactement, et je voulais apporter 1232 pages, voyez le pavé.
Donc sur europe1.fr, le gag visuel d'Axel de Tarlet consiste à nous montrer un Larousse,
une encyclopédie. Avec une photocopie de la tête de Piketty dessus.
C'est en bilan sur les moyens de cette rédaction.
Son précédent livre avait fait 976 pages, là il nous a fait 1232 pages. Alors il le dit lui-même, on n'est pas obligé de tout lire, on peut zapper la partie historique du début.
Ah bon?
Mais c'est très intéressant, c'est passionnant et ses idées commencent à être prises, vous allez le voir.
Voilà pour le programme. Pour départager les concurrents et assurer la sécurité de notre invité, je vous présente Eva Rock. Bonjour Eva.
Bonjour à tous.
Ça vous fait quoi de rencontrer Cédric Clapiche en vrai? Si possible, en évitant de tomber dans la niaiserie.
Je suis tellement contente.
Parfait. Oh, l'équipe est sauvage, c'est parti. L'équipe est sauvage. Vous avez passé l'été à vous dorer la pilule à Cavalaire-sur-Mer. Avec pour seule préoccupation...
J'ai envie d'un spritz, de dormir et d'un autre spritz.
Vous n'avez pas vu une salle de ciné depuis 2 mois. Il est temps de reprendre le chemin des salles obscures, car Cédric Clapiche, notre invité, sort un nouveau film. Ça s'appelle 2 mois. Vous nous les plaît, Eva. C'est pas le moment de tousser. 2 mois.
M-O-I.
M-O-I, c'est oui. L'astuce. L'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme. Ils vivent dans Paris, ils sont un peu dépressifs, hein, on peut le dire. Lui peine à faire une rencontre amoureuse. Elle multiplie, au contraire, les rencontres foireuses sur les applis. C'est une belle histoire, mais c'est surtout, comme toujours avec vous, l'analyse d'une époque.
Oui.
Oui. Merci Cédric Clapiche. Non mais vous dites, aujourd'hui, pour trouver l'amour, les gens vont aller sur des applications permettant des rencontres. On est dans une époque très connectée et bizarrement, cette époque fabrique le contraire du lien. Ça fabrique de la distance et du froid. C'est vraiment le paradoxe de notre époque aujourd'hui.
Oui, je trouve. C'est vrai que c'est étrange parce qu'on a, on a, ces applis existent pour qu'il y ait des rencontres. Et moi, j'avoue que je trouve ça génial. Moi, quand j'avais 15 ans, j'aurais adoré avoir Facebook et demander en soirée, c'est quoi ton Facebook c'est... Et en même temps, il y a cette distance, il y a la virtualité qui remplace beaucoup le concret, la réalité. Et du coup, ça fabrique effectivement du froid et de la distance.
Mathieu Charlier, votre avis sur Tinder ?
Dans quelle mesure vous êtes-vous reconnu dans le personnage d'Anna Girardot qui enchaîne les rencontres foireuses sur des applis de rencontres ?
Je vous en prie, Mathieu Charlier.
Il n'y a pas eu une époque de votre vie.
Il y a peut-être eu une époque de ma vie, mais ça n'intéresse pas nos
Vous vouliez qu'il vous donne un point à la fin de l'émission.
N'oubliez pas
que
j'ai un point moi aussi, Mathieu Charlier. Mais justement, je pense que Cédric Lapiche, c'est peut-être aussi la facilité avec laquelle on peut faire des rencontres aujourd'hui qui fait qu'on se dit toujours qu'on peut trouver mieux. D'où cet enchaînement.
C'est ça. C'est-à-dire la facilité fabrique de la difficulté, étrangement. Et donc, c'est vraiment une époque très paradoxale parce que cette espèce de côté supermarché où le choix est illimité fabrique de l'angoisse en fait.
Son nouveau film, 2 mois, sort mercredi en salle. Cédric Lapiche est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe et sauvage continue 2 heures d'une farouche et bruyante compétition.
Bonsoir, c'est un zénith. Que très
bas
si je faiblis.
Calmez-vous. Oui, désormais, chaque après-midi sur Europe 1, les meilleurs journalistes de la rédac enfilent leurs coquilles et guerroient au service de votre culture G. À suivre, faut-il plus taxer les grandes fortunes ? Rassurez-vous, Cédric, ce n'est qu'un projet. Axel de Tarlet. Axel de Tarlet, notre expert éco, a lu pour vous le nouveau livre de Thomas Piketty, Capital et idéologie, son défi, vous expliquer 1232 pages en 4 minutes. Vous l'avez bien lu en entier le bouquin, Axel.
J'ai pas compris, moi.
Mais vous avez 2 minutes pour comprendre.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue avec Eva Roch, Axel de Tarlet, Mathieu Charrier. 2 heures d'une lutte fratricide entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se disputent le prestigieux titre de chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité arbitre du jour, Cédric Lapiche, pour la sortie de son nouveau film 2 mois en salle mercredi. Un film dans lequel vous interrogez le rôle des réseaux sociaux dans nos relations amoureuses en 2019. Je vous présente justement quelqu'un qui se tient très au courant de tout ça. Oh non, avant encore ça. Voilà. Un journaliste qui vit vraiment avec son temps, qui épouse tous les changements de nos sociétés, comme notamment les réseaux sociaux.
Twitter, Facebook, tous ces trucs-là.
Moi, j'y suis pas.
J'en parle, mais...
Il en parle, mais il n'y comprend rien. Axel de Tarlet, vous êtes notre expert économie. Vous avez d'ailleurs, je crois, des infos exclusives sur ce que prépare Raymond Barre pour la rentrée, et également sur le troisième plan quinquennal de Brejnev. Mais d'abord, vous nous parlez aujourd'hui d'un livre que vous avez lu et qui vous a visiblement séduit. Vous qui prenez goût peu à peu aux idées de gauche. Le dernier... Peu à peu, il fait une transition. Le dernier livre de l'économiste Thomas Piketty, déjà salué pour son Capital au XXIe siècle, qui dénonçait la hausse des inégalités. Là, c'est dans la même veine.
Bah oui, alors d'abord, on rappelle qui est Thomas Piketty quand même. Thomas Piketty, vous savez, c'est cet économiste français dont le précédent livre a été vendu à 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. Donc il parlait des inégalités. Il a même été reçu à la Maison Blanche, alors pas par Barack Obama, mais par l'un de ses conseillers. Et donc là, alors, il parle à nouveau des inégalités. C'est son dada, Thomas Piketty. Mais alors là, il a fait toute une partie historique et c'est intéressant parce qu'il dit, quand on regarde dans l'histoire aujourd'hui, je sais pas, le Moyen-Âge, ça nous paraît très inégalitaire et très despotique, mais à l'époque, les gens, ils trouvaient que c'était normal et on accepte souvent les inégalités et ça n'est que quand on se projette, enfin quand on a un regard sur l'histoire, on dit mais c'était épouvantable. Et il dit cette notion de propriété, cette concentration de richesse par certaines grandes fortunes paraîtra, si ça se trouve, dans quelques années comme épouvantablement injuste et on se demandera pourquoi on les a acceptés au début du XXIe siècle. Et donc, alors, il dit quelque chose qui, c'est vrai, va choquer. Il dit qu'il faut dépasser la notion de propriété.
Ah oui, Proudhon, quoi.
Voilà. Il dit qu'il faut y incorporer deux propriétés, la propriété sociale et temporaire. Alors, je commence, c'est quoi ? La propriété temporaire, ça veut dire que si, à 30 ans, vous gagnez 100 milliards, bah, au fond, il faut tout de suite vous prendre énormément d'argent. Il n'y a pas de raison qu'à 32 ans, vous les ayez encore. Donc, il propose un impôt qui très, très progressif, qui commence à 0,1% et qui monte à 90% au-delà de 2 milliards. Il dit qu'il faut que l'argent tourne. Et ce n'est pas normal. Il dit, il attaque les premiers de cordée, etc. Il dit que ce n'est pas normal que les gens très riches, qu'on pense que les gens très riches soient nécessaires au bien-être de la société. Et deuxième notion, il dit la propriété sociale. Il dit, dans les grandes entreprises, on ne voit pas pourquoi ce serait le patron qui serait tout puissant et les salariés qui devraient exécuter. Et donc, il dit, les salariés qui participent aussi à l'enrichissement du pays devraient avoir la moitié des droits de vote. Alors, on se dit, bon, tout ça, ce sont des idées de Piketty qui ne seront jamais appliquées. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez le programme de Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne, que dit-il ? Il dit, toutes les entreprises doivent donner 10% de leur capital, de leurs actions, à leurs salariés, puisqu'il faut que les salariés participe, enfin bénéficie de l'enrichissement de l'entreprise. Alors déjà, vous savez que ce programme de Jérémy Corbyn fait grincer des dents parce qu'on commence à parler d'expropriation. Mais là où j'en veux la preuve que ces idées progressent, c'est que j'ai entendu l'autre jour Alain Minc, qui quand même épouse les idées de son temps, à l'université d'été du MEDEF, il a dit « Face à la montée des inégalités, messieurs les patrons, vous n'avez d'autre choix que de distribuer des actions gratuites, mais attention, vous ne les distribuez pas aux grands managers, vous les distribuez à tout le monde. Et vous devez ainsi distribuer en actions gratuites jusqu'à 10% du capital des entreprises à tous les salariés. » Et vous voyez, quand vous pensez, vous ajoutez à cela aussi les États-Unis, les démocrates qui veulent introduire l'ISF, on voit bien que ces idées et que cette concentration de la richesse sur quelques grandes fortunes, qui à l'heure des réseaux sociaux, j'entendais le patron de Danone dire ça également, il disait à l'heure des réseaux sociaux, en plus ces inégalités, elles nous explosent à la figure sur notre téléphone portable. Mmh. Et donc elles sont de moins en moins acceptées socialement. Et on voit les politiques en Grande-Bretagne, Alain Minc en France, les démocrates aux États-Unis s'emparer de ce sujet et y apporter une réponse politique. En ce sens, je vous ai résumé 1232 pages, mais j'ai trouvé...
j'ai une certaine fierté chez vous. Hein.
Mais je me suis dit, c'est vrai que c'est pas un bouquin qui est intellectuel et dans les airs. On sent que ces idées transpirent dans la politique. Voilà.
Eh bien, je dis bravo, Axel. Vous devenez de plus en plus mégalo. Plus vous devenez de gauche, plus vous devenez mégalo. C'est étonnant. C'était un parcours intellectuel intéressant. Merci, Axel de Tarlet. Votre chronique sur le nouveau livre de Thomas Piketty aura-t-elle convaincu notre invité? Nous verrons ça. Une chose est sûre, Eva Rock a eu l'air d'apprécier cette diatribe contre l'égoïsme des grandes fortunes. Mathieu Charrier, un commentaire?
Eh, mignonne, c'est pas ce que c'est d'avoir de l'argent.
C'est vrai que
c'est ce que c'est. Son nouveau film s'intitule « Deux mois, un conte urbain » à découvrir dès mercredi au cinéma. Cédric Clapiche, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue, 2 heures de bonne humeur et de découverte au cœur de cette auberge espagnole qu'est la rédaction d'Europe 1. Des journalistes particulièrement excités cet après-midi à l'idée de rencontrer notre invité d'honneur Cédric Clapiche.
Vous voulez toujours prendre un acide? Oui. Si vous voulez un trip, c'est le moment.
Non, merci Cédric, jamais avant le goûter. On a quand même une éthique à Europe 1. Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui vous aura offert le sujet le plus concernant ou étonnant? Peut-être Mathieu Charrier qui va nous parler d'un nouveau film réalisé avec un budget assez serré. 1000 euros. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Rock, Mathieu Charrier, Axel de Tarlet. 2 heures pour assouvir votre insatiable soif de savoir tout en gainant vos zygomatiques. Chaque après-midi, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 se déchirent pour vous offrir l'info la plus étonnante, l'histoire la plus insolite, celle que vous aurez hâte de raconter ce soir au dîner. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil d'un invité de marque aujourd'hui. Cédric Clapiche nous accompagne pour fêter la sortie de son nouveau film « Deux mois » en salle mercredi. Un film qui évoque notamment notre addiction aux réseaux sociaux et aux applis de rencontre. Est-ce que vous-même, Cédric Clapiche, vous êtes quelqu'un de très connecté, voire accro?
Oui, moi je suis très Instagram, j'adore Instagram. Et donc je peux dire que je suis accro à ça. Et il y a vraiment le même problème, je dirais, quand on aime un réseau social, c'est le problème de l'alcool. C'est que c'est bon, mais trop, c'est moins bon. Donc il y a vraiment le problème de l'addiction.
Ouais. Parce que c'est extrêmement chronophage. Je pense qu'on est tous là sur les réseaux sociaux, c'est que c'est marrant, mais Eva, vous passez beaucoup de temps.
On est d'accord.
Ah oui,
moi, Mathieu, par exemple, mais pas du tout branché réseaux
sociaux. Oui, mais ça,
c'est juste
parce que je suis ringard. Ça n'a rien à voir avec l'addiction. Deux mois sort mercredi en salle avec Anna Girardot, François Civil et Camille Cotin. On continue d'en parler juste après une petite parenthèse musicale. Heureusement que j'avais gueulé vendredi. Voici Sia, Cheap Thrills. T'essaieras de me mettre des chansons avec des titres que je peux prononcer. Hein.
Cheap Thrills.
Cheap Thrills. Bon, alors on va voir. Voici Ini Kamoze. Here comes the hot stepper sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, continue avec Eva, qu'est-ce qu'on vient d'écouter?
Ini Kamoze.
Mais quel était le titre?
Here comes the hot steppers.
Pas trop mal.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Eva Rock, Mathieu Charrier, Axel de Tarlet sont à mes côtés, tête de proue de cette nouvelle émission que vous découvrez chaque après-midi sur Europe 1. Émission qu'on pourrait décrire comment, Eva?
C'est très festif, hein. Ouais. Tout le monde est bourré. Hein.
Oui, non. Concentrez-vous, Eva. Enfin, surtout, c'est une émission hybride où l'on mêle habilement journalisme rigoureux et joviale convivialité pour rire et découvrir. C'était ça le pitch, hein, normalement, pour le cahier des charges. 2 heures d'une intense compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Qui sera désigné chroniqueur du jour? Vous votez via Twitter. Mais le vote de notre invité d'honneur comptera triple. Cédric Clapiche nous fait l'honneur de nous accompagner jusqu'à 18h. Alors, Cédric Clapiche, ensemble, on parle de Deux mois, votre nouveau film. Et comme avec vous, on ne sait jamais. Hein, tantôt on rit, tantôt on pleure. Là, à quoi les spectateurs doivent s'attendre? C'est comédie dramatique? Comment vous décrivez
verriez le film?
Moi, j'aime pas donner une étiquette. J'aime bien le fait que, comme vous dites, c'est hybride, hein, c'est comme votre ouais. émission. Et donc, oui, j'aime bien faire rire et pleurer. Donc, je pense que dans le film, c'est assez clair que les gens rient et pleurent.
Et vous m'avez énervé, moi, parce qu'il y a quand même un petit suspense jusqu'à la fin du film. On peut le dire, ça. J'ai pas dévoilé grand-chose.
Bah,
mais
un peu quand même.
Non, j'ai dit qu'il fallait regarder le film jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute.
Faut pas sortir de la salle.
Voilà, faut pas sortir de la salle. Ça, vous allez regretter.
C'est vraiment un bon conseil.
Ouais, bah,
c'est
important,
pas mal. Parce qu'on y pense pas.
Franchement, il y a des films où vous avez vraiment envie de partir avant la fin, on est d'accord.
Il y a une phrase de Boris Vian géniale qui dit: le film était tellement mauvais que les gens faisaient la queue pour sortir. Et j'adore cette phrase.
Alors, vos deux personnages principaux incarnés par François Civil et Anna Girardot sont tous les deux, on l'a dit, en phase de dépression. C'est facile de pitcher, comme on dit, un film où les deux personnages principaux, au début du film en tout cas, sont dépressifs, quand c'est quand même une comédie romantique où on espère sourire.
Ben, forcément, quand vous dites ça aux financeurs du film, ça leur fait pas plaisir.
Il vaut mieux s'appeler Cédric Lapiche dans ces cas-là.
Ouais, non, et puis par contre, ils ont lu le scénario, ils ont compris. C'est-à-dire que je pense que c'est le cas d'ailleurs des spectateurs qui au début sont surpris, ça démarre un peu lentement avec des gens qui vont pas bien. Et puis on espère qu'ils aillent mieux dans le courant du film. Donc c'est vraiment un des principes du film.
Sur les réseaux sociaux, vous avez vous-même des enfants. Est-ce que vous les... Ils sont grands maintenant.
Ouais.
Comment vous gérez leur relation aux réseaux sociaux? Vous les conseillez? Vous leur dites doucement? Ou de toute façon, vous avez lâché prise parce qu'ils font ce qu'ils veulent?
J'ai lâché prise. C'est-à-dire qu'il y a l'époque, j'ai 14 ans et je suis tout le temps. Et donc à table, vous êtes en train de dire lâche ton téléphone, etc. Donc c'est une bataille. Et puis il y a un moment où effectivement, de toute façon... vous n'êtes pas 24 heures sur 24 avec eux et oui. Vous lâchez prise.
Vous dites également, donc, sur cette addiction aux réseaux sociaux, vous dites: à force d'être en connexion avec le monde, on est en connexion avec rien, on perd la nécessité réelle. Moi, je positive le fait d'avoir un contact réel et humain. Avec deux mois, je voulais faire la publicité du réel. Je trouve que, moi qui ai eu la chance de voir le film, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est Cédric Lapiche qui s'intéresse au monde actuel avec les réseaux sociaux, avec les applications, mais qu'il dépasse en même temps.
Je suis d'accord avec ce que j'ai dit, en tout cas. Non, ouais. C'est vrai.
Mais on ne peut pas voter pour moi, c'est cool. Pourquoi je ne suis pas en compétition, moi, d'ailleurs?
Non, mais c'est vrai. Oui, faire la publicité du réel, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vrai qu'on est beaucoup sur la notion du clic, quoi. C'est-à-dire qu'on clique sur des choses et on est beaucoup sur la notion de fantasme ou de désir. Donc, quand on commande une pizza ou un jus de pamplemousse, c'est plus facile, mais c'est vrai que quand il s'agit d'un film ou quand il s'agit d'une personne, ça devient plus compliqué parce qu'on ne clique pas sur des films ou des personnes.
Son nouveau film, Deux mois, sort en salle mercredi. Cédric Lapiche passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Il aura suffi de deux semaines pour transformer une rédaction soudée où les gens s'aimaient en un champ de bataille sans retour. Où désormais, mis en compétition, les journalistes d'Europe 1 se déchirent. Vol de disque dur, saupoudrage d'imodium dans le café du voisin. Plus personne ne retient ses coups, quitte à dire parfois n'importe quoi sur un collègue. Non, Charlie, inutile de lever la main, je ne veux pas savoir ce que vous avez à nous dire sur Axel de Tarlé.
Bah, il se drogue.
Mais non, mais j'ai dit non, je ne veux pas savoir. Vous allez plutôt nous parler d'un film fabuleux réalisé avec un tout petit budget, ça sera plus intéressant. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures à la lisière de l'info et du divertissement avec Eva Roch, Mathieu Charrier, Axel de Tarlé et sous l'égide d'un des plus grands réalisateurs français, Le Péril Jeune, L'Auberge Espagnole, Chacun cherche son chat, Cédric Lapiche est notre invité pour la sortie mercredi de Deux mois, votre nouveau film. Beaucoup d'émotions dans le studio. Eva Roch vous suit depuis tant d'années, elle vous avait déjà interviewé pour L'Auberge Espagnole en 2002. Hein, Eva, ça vous fait drôle de revoir Cédric Lapiche cet après-midi depuis toutes ces années?
Oh, ça fait quand même tout drôle de te revoir après tant d'années. Genre beau gosse. Ah, t'en as dit qu'un peu des greluches
oui.
Et des belles.
Oui, merci. Mais vous échangerez avec Cédric hors antenne, ce sera mieux pour tout
le
monde.
Désolée, hein.
Car la compétition continue. Voici venir Mathieu Charrier, qui Cédric n'est pas n'importe qui, puisqu'il est vice-chef adjoint délégué par intérim du service culture d'Europe 1.
Mathieu, ça faisait longtemps.
Vous êtes actuellement troisième, hein, si je ne m'abuse, du championnat européen. Avec quel sujet allez-vous tenter de vous hisser au sommet du podium?
Est-ce que vous voyez que déjà qu'il y a Avzia Arzi, vous savez,
oui.
Révélé notamment
chez
dans
Kechiche.
La Graine et le Mulet, voilà, ouais. Chez Kechiche, c'est une jeune actrice assez formidable. Et l'année dernière, elle attendait la réponse parce qu'elle voulait réaliser son premier film. Il y a plein d'acteurs qui, au bout d'un moment, veulent passer derrière la caméra. Elle attendait la réponse du monde financier, ça venait pas. Et puis à un moment, elle s'est dit, passez-moi l'expression, et merde, tiens, je vais faire mon film toute seule. Elle a regardé sur son compte en banque, il restait à peu près 1000 euros, comme nous tous. Elle s'est dit, bon, allez, avec 1000 euros, je vais essayer d'autre produire mon film. Elle a appelé des copains techniciens, des acteurs amateurs qu'on ne veut pas tourner dans beaucoup de films, donc qui n'allaient pas lui demander beaucoup d'argent. Ils ont accepté et bim, c'est parti, ils ont commencé le tournage.
Mais comment ils ont financé, ne serait-ce que les caméras, les décors ?
Alors, c'est assez simple, les décors déjà, c'est chez eux, à Belleville. Hein. Ils sont restés dans le même quartier pour ne pas gagner du temps et pas avoir à déplacer toute cette petite équipe. Ils ont tourné dans les bars et les restos qu'ils fréquentent avec les patrons qui leur ont dit « Ouais, vas-y, pas de souci, je te prête le bar une nuit ». Niveau caméra, ils expliquent qu'ils ont pris des petits appareils photo qu'ils avaient chez les uns et chez les autres parce qu'ils n'avaient évidemment pas les moyens de louer les caméras cinéma qu'on a aujourd'hui. Et puis, ils ont tourné en 3 fois 5 jours parce qu'ils disaient qu'il faut quand même que les gens puissent manger. Donc, ils tournaient 5 jours et puis les 25 jours restants, ils pouvaient aller travailler sur d'autres tournages parce que évidemment ces techniciens-là n'étaient pas payés. Puis petit à petit, le film a pris vie. Elle s'est dit courant mars, tiens, si je le présentais à Cannes, parce qu'après tout, pourquoi pas essayer. Elle a envoyé le film aux différents comités de sélection. Bim, la semaine de la critique l'a rappelé, lui a dit, allez banco, on te prend. Et donc là, début mars, hop, sélectionné au Festival de Cannes. Le film arrive à Cannes, coup de projecteur évidemment formidable. Elle est partie avec 1000 euros. Elle obtient l'achat d'une chaîne de télévision qui lui dit « Nous, on met de l'argent sur votre film, c'est Arte. Mmh. » Elle obtient plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est quand même là, on passe sur un budget beaucoup plus conséquent. Donc elle peut rappeler tous ses potes techniciens, tous les acteurs en leur disant « Bon les gars, c'est bon, je vais pouvoir vous donner un petit peu d'argent. » Et puis le film, alors il n'a pas été récompensé à Cannes, mais ça lui a évidemment permis de trouver un distributeur, etc. Et il sort mercredi sur les écrans. Et franchement, c'est un...
C'est
un film, ouais, c'est réussi. Alors, c'est un film d'auteur avec des petits moyens. Vous n'allez pas avoir des éclairages parfaits, mais c'est un beau film qui raconte une belle histoire.
Et justement, il raconte quoi ce film ?
Alors, c'est l'histoire du personnage de Lila, jeune trentenaire joué par Avzi Arzi, puisque quand on n'a pas de moyens, on se met aussi devant la caméra, qui vient de larguer son mec. Rémi, c'est une histoire d'amour vraiment traditionnelle, qui vient de le larguer parce qu'elle a découvert qu'il le trompait. Et elle va essayer de se reconstruire à travers différentes rencontres et surtout à travers différents désirs. C'est-à-dire qu'elle va décider d'écouter son désir de femme. C'est un film sur le désir féminin. C'est évidemment très dans l'air du temps. Mais franchement, c'est un joli film que je conseille à nos auditeurs.
Est-ce qu'il y a du Girls dedans, de Lena Dunham, la série ?
Non.
Ah non, il n'y a pas ça. Non. C'est pas cet esprit-là.
Non, c'est plus l'esprit vraiment, moi, femme, d'accord, je m'affirme, je séduis, je couche si j'ai envie de coucher, je couche pas si j'ai pas envie.
Très bonne phrase, Mathieu, que je pourrais extraire et replacer à un autre moment. Tu mérites un amour, d'Avzi Arzi.
Non, mais c'est une belle
mercredi.
Histoire, parce que ça prouve quand même qu'aujourd'hui, on peut. Il y a évidemment des gros films comme celui de Cédric Lapiche qui ont besoin de budget, etc.
Mais surtout que Cédric Lapiche est une star aujourd'hui, mais j'imagine que vous avez commencé à vos débuts, vous avez dû faire des films à petit budget.
Absolument. Bah oui, Le Péril Jeune, c'était un très petit budget, où chacun cherche son chat aussi.
Et oui, et donc du coup, j'imagine ça stimule la créativité. On est obligé de.
Ouais, mais pensez pas qu'avec plus d'argent, on enlève la créativité.
Non, certainement pas, mais disons que.
Non, parce
au
qu'en
début,
plus, c'est plutôt un petit budget de moi, et donc, donc évidemment pas dans les mêmes échelles qu'Avzi Arzi, mais en tout cas, oui, c'est un petit budget.
Mathieu Charrier, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je ne pas des fois d'avoir moins de budget, parce que j'imagine que c'est aussi moins de pression, c'est moins de. Quand on part avec 1000 euros, on fait son petit film, et on se dit, bon, si c'est raté, j'ai perdu 1000 euros, c'est pas le bout du monde. Quoi.
Ouais, mais c'est un peu ce que je me dis aussi. Alors, c'est vrai que moi j'ai alterné, disons. Faut savoir que dans le cinéma, un petit budget c'est 1 million d'euros. Que quand on est à 5 millions d'euros, on est dans la moyenne des films français. Et puis à plus de 10 millions d'euros, on commence à être dans les films un peu exceptionnels. Et puis il y a pas mal de films qui font plus de 20 millions d'euros, qui sont les films en costume très chers et tout ça. Et moi, j'ai un peu alterné entre 5 et 10 millions d'euros. Donc il y a eu des films très chers, comme Casse-tête chinois qui était très cher. Mais c'est vrai que maintenant, je me rapproche plus de la barre des 5 millions d'euros. Disons.
Merci pour cette analyse. Cédric Capiche est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue. 2 heures d'une âpre compétition au service de votre culture G. Un seul de nos valeureux journalistes en compétition aura l'honneur de se coiffer tout à l'heure de la couronne de chroniqueur du jour. Couronne, si vous nous suivez sur Europe1.fr, de grande qualité, qui n'a pas coûté, elle, 1 million d'euros. En attendant, notre invité Cédric Lapiche va découvrir la dimension participative de notre émission.
Fais chier, putain, merde.
Comment ça ? Pas du tout. Vous êtes très impatient d'affronter Eva Rock dans le cadre d'un quiz que vous allez voir renouvelle totalement le genre. Je pose des questions, vous répondez. Et parfois, il y a un choix multiple.
C'est une révolution.
Ah oui. Bien, un point pour Charlie.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Plus qu'une émission, une épopée. 4 journalistes lancés dans une course-poursuite dantesque avec un seul but, sauver leur CDI. Un seul sera en effet élu chroniqueur du jour en fin d'émission, celui qui vous aura offert le sujet le plus marquant, celui que vous aurez envie de raconter ce soir à table, le tout sous l'œil d'un invité qui me fait devenir tout rouge à chaque fois que je le regarde. Cédric Lapiche nous accompagne cet après-midi pour la sortie de 2 mois, son nouveau film en salle mercredi. On en parle ensemble, mais j'ai d'abord une question très personnelle, très intéressée aussi à vous poser, mon cher Cédric. Pourquoi n'avoir pas continué à superviser la série 10% dont vous aviez dirigé la saison 1 et qui était excellente ?
C'était mon idée de départ, c'était de lancer cette série, donc de faire le casting et de participer à la création de cette série et d'ensuite laisser faire. C'était vraiment l'histoire à la fois des scénaristes et des producteurs. Et donc, je n'avais pas envie d'aligner les épisodes. Je trouvais ça bien, le côté très collectif, disons, de la création d'une série.
Et le format série, c'est quelque chose qui vous intéresse toujours. Il y a des rumeurs selon lesquelles l'Auberge espagnole pourrait être déclinée en série pour une plateforme.
Alors pour l'instant, ça n'est qu'une rumeur, mais en tout cas, oui, j'ai envie de faire en parallèle, disons, des séries et des longs métrages. Ouais.
C'est votre prochain défi, on peut le dire quand même. Refaire une grosse série, je veux dire, pas forcément l'auberge espagnole, mais...
disons que j'aime autant les deux, c'est-à-dire que pour moi, le long métrage, c'est quand même mon métier de base, parce que faire un film pour les grands écrans, pour les cinémas, c'est un autre métier, et c'est vrai que faire un film pour les petits écrans, faut aller beaucoup plus vite, donc il y a un côté... je dis souvent que c'est la différence entre la haute couture et le prêt-à-porter, et que j'aime aussi le prêt-à-porter, disons. Ouais.
En matière de défis, celui qui vous attend maintenant a de quoi effrayer, j'en ai conscience, puisque vous allez affronter Eva Rock en combat singulier. Voici qui veut gagner une centrifugeuse Christophe Ondelatte, avec ses accessoires.
Des fouets, des cravaches, des combinaisons en latex, sextoy, menottes.
Oui, merci Christophe, on voit l'idée. Cédric Lapiche, vous êtes opposé à Eva Rock. Le quiz est un vrai faux en hommage à votre auberge espagnole. C'est un tour d'Europe que nous vous proposons.
Oh mon Dieu.
Cédric Lapiche, on commence avec vous. En Autriche, à Salzbourg, tous les mois de juillet, il existe le Nacht Klassische Musik Festival. Excusez-moi pour l'accent. Un festival de musique classique naturiste. Les musiciens jouent nus, vrai ou faux ?
Vrai.
Faux ! Mais c'est une idée à creuser. J'adore quand ça commence par un piège énorme. Parce qu'en plus, ça pourrait tout à fait être vrai. Ils sont complètement cons, en régime.
Oui, c'est dommage qu'ils n'y aient pas pensé.
C'est vrai. Mais maintenant, ils vont le créer. Et Baroc, dans le nord de la Suède, en pleine montagne, on peut trouver un McDo-restaurant d'altitude baptisé Maxki. Vrai ou faux ?
Non, c'est faux.
C'est vrai !
Non,
situé
c'est pas
en
vrai.
Haut des pistes, il est même équipé d'un McDrive pour les scooters des neiges.
Oh mais c'est honteux.
Il fallait y penser.
Mais non, il fallait pas y penser.
Bah comment ça ?
Bah
c'est la tartiflette, vous, la croûte au fromage.
Non,
je le vois dans vos yeux. Attention, vous répondez ensemble une question, trois propositions. En Norvège, le système fiscal présente une particularité étonnante. Laquelle ? 1. Les fraudeurs du fisc doivent mettre un autocollant sur leur voiture montrant qu'ils ont fauté. 2. Sur Internet, vous pouvez consulter le montant des impôts de tout le monde. Ça serait bien. J'aimerais bien savoir combien il touche, Mathieu Charrier. 3.
C'est pas lui qui
Taisez-vous. On peut, une fois dans sa vie, faire payer une année d'impôt à ses enfants. Ils ont un délai de 30 ans pour rembourser la somme. Quelle est la particularité?
Allez-y, Cédric Lapiche.
Je vais dire que les trois sont fausses.
Et pourtant, une est vraie.
Alors, la première est vraie, je sais pas.
Les fraudeurs du fisc doivent mettre un autocollant sur leur voiture. Ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal. Eva ?
Moi, je pense que c'est la 2. C'est le.
Sur Internet, vous pouvez consulter le montant des impôts de tout le monde. C'est-à-dire que si demain je veux voir les impôts de Cédric, je clique et je les vois.
Je pense que c'est possible.
C'est ça, mais on n'a pas le droit de l'écrire dans la presse.
Oh, Axel de Tarlé qui connaît la réponse à un quiz. Mais vous n'aurez pas de point, Axel. Le point ne peut pas aller. Vous ne jouez pas. Et donc, c'est Eva qui remporte ce point.
Ah, mais Cédric n'avait pas eu le temps de répondre en même temps.
Si, Cédric a répondu.
Ah,
il a dit la réponse 1. Il pensait qu'on mettait sur l'autocollant sur la voiture. Eva Rock, en Belgique, qui a vendu le plus de disques de toute l'histoire du pays ? Jacques Brel, Frédéric François ou Adamo ?
Ah, j'aurais dit Frédéric François.
J'aurais dit Stromae.
Non. Vous dites Frédéric François. Jacques Brel, environ 25 millions d'albums vendus. Frédéric François, 35 millions d'albums vendus. Et Salvador Adamo, 90 millions d'albums vendus. Voilà. Le double, tout simplement. Vous n'imaginez pas la puissance d'Adamo. Mathieu Charrier.
90, c'est pas le double de 35.
Oui, enfin, c'est...
Non, mais
excusez-moi. Trois fois plus. mais vous, des points, vous serez retranchés, mais pour de bon.
Vous êtes dingue.
Dernière question, Cédric Lapiche. En Allemagne, Thomas Vogel détient le record du monde de nombre de soutiens-gorge dégrafés en une minute d'une seule main. À savoir 38, vrai ou faux ?
J'espère que c'est vrai.
Ouais, cette voix suave me plaît. Eh bien non, c'est faux, mais vous n'étiez pas loin. Pour avoir un demi-point, c'est 56 soutiens-gorge dégrafés en une minute. Beaucoup plus que 38.
Elle est pourrie la question.
Elle est pourrie, j'accorde le point à Cédric Lapiche.
Bah oui.
En accordant le point à Cédric Lapiche, quel est le résultat de ce quiz ?
J'ai perdu.
Égalité, j'aime bien quand c'est égalité. Surtout que ça tombe bien, nous avons deux modèles à vous offrir. Donc deux centrifugeuses, Christophe Ondelatte. Vous allez pouvoir faire des plats merveilleux ce week-end. C'est un bonheur et un honneur de passer l'après-midi avec lui. Son nouveau film, 2 mois, sort en salle mercredi avec François Civil, Anna Girardot et Camille Cotin. Cédric Lapiche est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Axel de Tarlé, Mathieu Charrier sont à mes côtés. L'équipée sauvage se poursuit. 2 heures d'une féroce compétition opposant la fine fleur des journalistes d'Europe 1 qui se succèdent au micro. Un seul sera couronné chroniqueur du jour sous l'œil, on l'imagine, admiratif de notre invité Cédric Lapiche. Tout se passe bien, Cédric, vous voulez un café, un verre d'eau ?
Un pommard, que du Bourgogne.
Ah oui, il est même pas 5h quand même, un pommard pour Monsieur Clapiche, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la rigueur éditoriale d'Envoyé spécial, la violence de Game of Thrones. Deux heures d'une compétition sans pitié entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul s'agenouillera en fin d'émission, non pas devant le trône de fer, mais devant Bibi, afin que je le couronne chroniqueur du jour. À suivre, c'est une question que vous êtes nombreux à vous poser si vous avez des enfants en cette période de rentrée scolaire. À quel sport dois-je inscrire mon petit chou ? Ping-pong, foot, rugby ? Le judo est-il vraiment si bon que ça pour les enfants ?
Alors tu précipites pas le mouvement, hein ? Tu le laisses bien venir de l'intérieur, ça doit venir de très loin, c'est japonais.
On posera la question à une vice-championne du monde d'athlétisme qui n'est pas Eva Rock, hein, car on connaît les mythos d'Eva Rock sur l'athlétisme. Mais d'abord, un petit peu de musique. Voici Angèle, Flou sur Europe 1.
Ah. Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. La suite, on verra.
Flou, c'était Angèle sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, deux heures d'une compétition rageuse entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 et à l'heure de se demander quel sport choisir pour son enfant en cette période de rentrée scolaire. Et avant d'accueillir pour en parler une vice-championne du monde d'athlétisme, j'aimerais vous présenter une vice-championne du monde de mytho. Ma complice Eva Rock, qui aurait été, bon, il n'y a pas de témoin, pas encore trouvé de témoin, une grande championne d'athlétisme elle aussi.
J'ai fait de la compétition, mon cher Mathieu. Surtout de l'athlétisme. Mais bien sûr, j'étais dans les meilleures françaises.
Bien sûr, les meilleures françaises, comme va pouvoir en témoigner tout de suite notre invité. Bonjour Frédéric Banguet.
Bonjour. L'impression que cette phrase est sortie de son contexte.
Merci.
Et par solidarité féminine, je vais d'abord demander plus de preuves avant de dire que tu es vice-championne du monde de mytho.
Voilà, quand même.
Vice-championne du monde d'athlétisme, c'est vous en sprint, Frédéric Banguet. Vous avez passé 10 ans en équipe de France et vous avez créé Salto, un magazine qui apporte des conseils aux parents. Quel est le sport auquel il faut inscrire notre enfant en cette rentrée ? J'imagine qu'en fonction de l'âge, ce n'est pas le même.
Ah oui, alors en fait, on ne va pas dire en fonction de l'âge et quel est le sport, parce que je pense que de toute façon, ce qu'il faut, c'est effectivement trouver le sport qui plaît à notre enfant. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut essayer de découvrir le plus de sports possible.
Pour se faire un choix.
Parce qu'effectivement, en tant que parents, on a tendance à inscrire nos enfants dans les sports qu'on connaît. Donc, on va les mettre dans les sports qu'on a fait nous-mêmes. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus des sports qui sont, on va dire, très plébiscités par la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin de s'amuser d'abord. D'abord, s'amuse et ensuite on leur demande un effort. Si tu fais l'inverse, tu n'y arriveras pas. C'est vrai que nous, l'athlétisme, par exemple, c'est un sport très ingrat où tu t'entraînes, et quand tu n'es pas trop mauvais, tu as une médaille et là, tu es content.
Et à partir de quel âge vous pensez que les enfants doivent commencer à pratiquer une activité sportive ?
Alors aujourd'hui, on commence de plus en plus jeune. On va dire que c'est de la motricité, mais c'est vrai que maintenant, il y a des baby basket, baby hand, baby gym à partir de 2 ans.
Mais ça a du sens ?
Oui, c'est bien parce qu'en fait, il faut que l'enfant intègre la pratique sportive comme normal. C'est pas je fais du sport en plus de quelque chose, c'est je fais du sport dans ma vie.
Ça fait partie de la vie.
Exactement.
Peu à l'anglo-saxonne finalement, où ils ont cours le matin et
exactement.
Sport l'après-midi. Quel sport on peut choisir si on a un enfant très expansif, très agité ?
Un peu alors, comme un Mathieu Noël mini, si vous voulez.
J'étais pareil. Du coup, là, je prends la défense de Mathieu, parce que j'étais à peu près pareil, assez vive.
Quel invité parfait.
Je disais, ouais, moi j'étais assez... En général, on essaie de trouver des sports qui vont être plus dans les arts martiaux, le judo, ces choses où on va devoir se centrer, se canaliser et utiliser cette énergie pour la remettre dans l'exercice et pouvoir être meilleur, quoi. Donc en général, c'est ce qu'on conseille.
Les enfants ont parfois des emplois du temps de ministre aujourd'hui. Combien d'activités conseillez-vous au maximum ?
Alors, encore une fois, pareil, je donne des conseils, mais je n'ai pas vraiment de chiffres clés parce que ce qu'on demande, c'est en gros, aujourd'hui, c'est 60 minutes de sport par jour, d'activité physique, sportive par jour.
C'est énorme.
Non, c'est rien du tout. Dès que tu fais le chemin à pied pour aller à l'école,
c'est ça qu'il faut se rendre compte.
On parle beaucoup de sport, on se trompe en disant sport et activité physique, mais ce qu'il faut, c'est que l'enfant bouge. Il faut qu'il bouge, donc c'est 60 minutes par jour.
On parlait des enfants agités. À l'inverse, les enfants timides, il faut les inscrire dans les sports co, il faut les inscrire au rugby, ça va leur tanner le cuir.
Alors peut-être pas le rugby, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il est souvent recommandé d'aller dans les sports co, où effectivement, les enfants qui sont un peu timides, qui ont du mal à s'adapter, qui ont du mal à créer du lien. Moi, je l'ai vécu avec le basket. Quand j'étais jeune, j'étais en plus extrêmement nulle au basket, mais réellement. Hein. Mais j'étais super contente d'y aller régulièrement, parce que je m'étais trouvé des copines qui étaient grandes comme moi. Parce que
oui, dans le sport, il n'y a pas que le sport. On se forme une personnalité.
Après, il y a une dimension, on va dire, même de citoyenneté. Moi, c'est tout ce qu'on apprend, toutes les règles qu'on apprend, le respect de soi, des autres, des adversaires, de l'arbitre et autres. Voilà, toutes ces choses-là, je trouve que c'est très important.
Cédric Lapiche, notre invité, vous avez été perchiste.
Ouais.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, le sport ? Qu'est-ce que vous en avez gardé ?
C'est ce qu'elle vient de dire, c'est le côté cadré de l'énergie, disons. C'est vrai ce qu'elle dit sur le côté très ingrat de l'athlétisme. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai essayé de leur faire de l'athlétisme, ça n'a jamais marché. Donc, ils ont fait d'autres sports, mais c'est vrai que que c'est vraiment important de, d'apprendre tout ce qu'on apprend en sport, qui est sur la volonté, c'est-à-dire que c'est incroyable, le fait de vouloir aller quelque part chaque semaine, de se dépasser, de, d'être avec les autres. Il y a plein de choses qu'on apprend dans le sport.
Je crois que Marie-José Pérec va intervenir. Marie-Jo Rock.
Non, mais je vous conseille, je ne sais pas si on peut revoir votre documentaire que vous avez fait, Cédric Lapiche, sur le parcours de Renaud Lavillény. Vous êtes allé le suivre à Donetsk. Ouais. C'était simplement pour une première compétition. Il s'est avéré qu'il avait battu le record du monde ce jour-là, sous les yeux de Boubka. Et c'est un film incroyable.
En fait, il y a un film qui s'appelle L'élévation.
Oui, L'élévation.
Et un autre film qui s'appelle Jusqu'au bout du haut. Mmh. Et donc effectivement c'était impressionnant de le suivre et d'assister à ça. Ouais.
Merci beaucoup Frédéric Banguet d'être venu nous voir sur Europe 1. On rappelle qu'on peut retrouver tous vos conseils sport sur le site saltomag.com.
Oui, puis c'est un magazine qui est gratuit, vous vous abonnez, vous recevez gratuitement dans vos boîtes aux lettres quand même, je le précise, et je vous en laisse quelques-uns à découvrir quand même.
Oh, c'est bon en plus.
Oh non, franchement vous allez voir, vous allez être surpris.
Il y a une couverture avec Frédéric Michalak qui va plaire, je sais, à Eva Rock, on va pouvoir lui donner.
Ah, ouais, c'est vrai. Voilà.
Merci à vous.
Merci pour l'invitation en tout cas.
Merci beaucoup. Il a marqué les années 90 puis 2000 avec ses films Radioscopie de notre société, de ses évolutions, Le Péril Jeune, L'Auberge Espagnole. Son petit dernier s'appelle Deux Mois. Il sort en salle mercredi. Cédric Capiche est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez L'Équipe est sauvage. Deux heures d'une cruelle mais palpitante compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Qui vous livrera la meilleure histoire, la meilleure info? Dans quelques instants, deux nouveaux concurrents avec qui on parlera de la générosité incroyable de certains footballeurs et d'intelligence artificielle pas si maligne que ça. Nos invités adorent le concept de cette émission. Éric-Emmanuel Schmitt, vendredi, ne s'en cachait pas. Il l'avouait sans tabou être, je cite,
« chaud comme une baraque à frites ». Mais vraiment.
Cédric Lapiche, vous partagez cet enthousiasme?
Absolument.
À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, L'Équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, L'Équipe est sauvage continue deux heures d'une compétition foutraque et endiablée opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui dont le sujet vous aura le plus subjugué, vous et notre invité d'honneur. Son nouveau film sort mercredi, il s'intitule « Deux mois ». Cédric Lapiche est avec nous jusqu'à 18h. Et pour moi qui suis un authentique fan, c'est une rencontre magique. J'ai grandi avec vos films, Cédric Lapiche. J'avais même commencé à tourner un projet qui aurait été un bel hommage à votre célèbre film. Ça se serait appelé « Le Péril Vieux ». J'avais déjà l'actrice.
Ah, oh, j'ai le nez qui me coule comme une vieille.
Hélas, les assurances n'ont pas suivi. C'est dommage.
Ça a mal se finir. C'est dommage. Vous savez, hein.
C'est ouais. Dommage. Ensemble, Cédric, on parle de Deux Mois qui sort mercredi, l'histoire de deux jeunes gens dépressifs à la recherche de l'amour. Il y a quelques clins d'œil à Chacun cherche son chat. Tout d'abord, un chat qu'on a tous envie d'adopter, qui circule. Hein. On va pas trop en dire, mais enfin, il y a ce chat. Il y a un épicier de quartier. Il y a cette vie encore parisienne. Ce Paris-là, il existe toujours, d'après vous, à l'époque des réseaux sociaux, ou bien vous essayez de le retenir en l'intégrant toujours dans vos films?
Alors, effectivement, il est un peu en danger, mais non, il existe. Je pense que tous les Parisiens, ou même les gens qui habitent dans des grandes villes, à Montpellier, à Bordeaux, à Lyon, savent qu'il y a une vie de quartier, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de préserver la vie de quartier. Après, moi, je sais que le supermarché en face de chez moi, il n'y a plus de caissière. Il n'y a plus personne. On a l'impression qu'il y a vaguement des gens qui surveillent quand on scanne les codes-barres. Mais c'est bizarre, quoi, cette espèce de... Ouais, le côté froid dont je parlais, c'est que la modernité crée du froid, quoi.
Vous filmez toujours Paris avec autant d'amour. Vous étiez engagé pour la candidature d'Anne Hidalgo en 2014. Vous la soutenez toujours aujourd'hui? Vous aimez bien la direction que prend Paris?
Oui, et d'ailleurs, je vais cafeter. Les gens disaient, c'est super, maintenant il y a des pistes cyclables, parce qu'on a tous souffert des travaux, et maintenant on voit que c'est pas mal, et que les quais de la Seine, on est quand même content qu'il n'y ait plus de voitures. Le fait de lutter contre la pollution et le fait d'essayer de changer les comportements, c'est très très pas populaire, mais j'ai pas envie d'être contre, moi, en tout cas.
On est content. Ensemble, on continue de parler de votre nouveau film Deux Mois qui sort après-demain, et vous le savez, la compétition n'attend pas. Je vous présente deux nouveaux concurrents, et j'ai envie de dire, pas des moindres. À ma gauche, il est le fils qu'auraient pu avoir Carl Lewis et Mark Zuckerberg. Un geek au corps d'Apollon. Anissé Mbida, notre expert innovation. Bonjour Anissé.
Bonjour, mais faut arrêter.
Il est tellement content, tu parles.
Mais non. C'est autre chose qu'un objet.
Mais vous êtes mon objet. Anissé, vous êtes deuxième. C'est deuxième au classement européen. Pour vous maintenir à ce niveau, vous nous parlez d'intelligence artificielle, mais pas si artificielle que ça aujourd'hui.
Oui, je parlais des arnaques à l'intelligence artificielle. On nous fait croire que les machines sont devenues intelligentes, qu'elles vont nous dépasser. En fait, pas du tout, vous allez voir. En fait, souvent, derrière ces intelligences artificielles, il y a des petites mains humaines derrière qui font tout le travail
à leur place.
Quelle arnaque. À ses côtés, Cédric Lapiche, je vous présente un garçon éminemment sympathique et avenant, Jérôme Lacroix, et notre expert sport. Avec 5,5 points à votre compteur, Jérôme, suite à je ne sais plus quelle magouille, 5,5 points, comment c'est possible, vous êtes en milieu de classement. Avec quel sujet allez-vous rattraper à Nice?
Il fait un peu gris, non? Vous avez vu le changement?
Oui, il y a un gros changement. Si nous parlons météo, vous avez...
Non, pas du tout, mais moi je vous raconte l'histoire feel good du jour. Je suis le distributeur de bonnes ondes aujourd'hui avec l'histoire d'un footballeur français que le public adore. Je suis sûr que vous tous aussi vous l'adorez.
Ah, je crois savoir qui c'est.
Moi aussi.
Vous entendrez.
On a hâte d'entendre cette belle histoire. Vous n'avez rien à ajouter d'ici là?
Ah, ma mère dit qu'elle fait la bise à tout le monde. Elle va venir bientôt d'ailleurs.
Génial, on l'embrasse. Quel dommage que Cédric Lapiche ne puisse pas rester un peu. Cédric Lapiche, justement, on est à J-2 de la sortie de votre nouveau film, 2 mois, avec Anna Girardot, Camille Cotin et François Civil. Un mot du tandem d'acteurs François Civil-Anna Girardot qu'on avait déjà vu dans votre précédent film, Ce qui nous lie. Vous avez vraiment trouvé votre nouveau couple fétiche?
J'adore ces acteurs, c'est vrai, et je suis bien content qu'ils fassent cet effet-là, et François Civil et Anna Girardot, parce qu'ils ont un mélange entre... ils ont une palette de jeux où ils sont entre la comédie, le drame, ils peuvent faire pleurer, ils peuvent faire rire, et je les admire beaucoup. Ouais.
Anna Girardot racontait dans le journal du dimanche hier qu'elle avait vécu une rupture amoureuse juste avant le film, et vous lui auriez dit ça c'est très très bien ça.
Parce que ce qu'elle dit dans le film, donc c'était pour rire. D'ailleurs je m'excuse auprès de son ex, parce qu'il n'y a évidemment pas de choses négatives, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'elle avait à jouer, c'était super.
Et alors vraiment il y a ce portrait de notre époque, il y a cette scène, je pense qu'Eva vous l'avez noté vous aussi, où Anna Girardot, qui joue donc Mélanie dans le film, s'inscrit sur une application de rencontre et en même temps ses copines commandent à bouffer sur une application comme Deliveroo probablement, et donc faire les deux, commander une pizza comme on commande un homme, c'est vraiment la photo de notre époque, quoi.
Oui, puis surtout on le remarque presque pas, c'est-à-dire que
c'est quand on le voit dans le film qu'on se dit c'est
le même geste en tout cas, donc et on fait défiler les restos japonais ou italiens
et les hommes japonais ou italiens.
Voilà, c'est ça.
Et vous, Tinder et Deliveroo en même temps, vous en pensez quoi? Vous vivez avec votre temps ou bien vous vous sentez en décalage? On est allé dans la rue vous poser la question. Enfin, pas moi, parce que je suis chef, j'ai envoyé quelqu'un, quoi.
Franchement, se galérer sur Tinder, si vous êtes célibataire, allez dans un bar, parlez aux gens.
Il y a encore 20 ans, il y avait les sites de rencontres quand même sur Minitel.
Buvez des verres, offrez des verres, avec ou sans alcool, comme vous voulez.
Il y avait le chasseur français, il y avait les petites annonces.
Tinder, en général, c'est pour pécho.
On parle avec elle, on devient ami avec elle, et après, plus il y a affinité. Moi, j'ai 13 ans.
La dernière fois que j'ai dragué, c'était en soirée, il dansait bien. J'ai fait, beau petit boule, tu le bouges bien.
Non, je connais des personnes qui s'inscrivent dans des sites internet. Juste pour un coup de plaisir et c'est tout.
Oh non, ça j'en ai jamais rencontré. Alors encore une fois, Cédric Lapiche, attention, on ne vous sent pas avec ce film nostalgique ou partisan d'un c'était mieux avant. Vous faites juste un constat aujourd'hui, le monde est comme ça.
Oui, parce qu'en plus, on sait bien que si vous dites aux gens « Ah maintenant, il faut arrêter avec les téléphones portables », voilà.
Ça n'a pas trop marché.
Donc moi je suis pareil, je suis dans l'époque, j'utilise les choses de mon époque et j'essaye de voir comment on peut améliorer les choses aujourd'hui avec les outils d'aujourd'hui. Donc je ne suis pas du tout à dire « c'était mieux avant », j'aime pas les gens qui disent ça. Ouais.
2 mois, c'est le titre de son nouveau film qui sort mercredi. Cédric Lapiche est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe sauvage continue sur Europe 1 avec Eva Roch, Anis Mbida, Jérôme Lacroix. 2 heures pour rire et découvrir par l'entremise d'une compétition un peu folle dingue entre les journalistes d'Europe 1. Et restez bien avec nous dans un instant, la rencontre de deux légendes que vous avez hâte de mieux connaître. Cédric Lapiche, notre invité, qui évoque ses souvenirs de tournage du Péril Jeune, de l'Auberge Espagnole. Et Jérôme Lacroix, qui évoque...
Non, moi une fois quand je jouais, j'avais pris 17-3 avec mon équipe. Ouais. Oui. Et j'avais marqué les 2 buts sur 3. C'était avec l'équipe de Saint-Juéry dans le Tarn, je les embrasse.
Ah oui, c'est intéressant aussi, hein, tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec Eva Roch, Anis Mbida. 2 heures d'une compétition épique entre d'anciens collègues désormais rivaux. Et oui, en 2019, plus aucun secteur n'échappe à l'ubérisation. Après les chauffeurs de taxi, les livreurs de pizza, vous pouvez désormais noter vos journalistes. Un seul sera élu chroniqueur du jour, sous le contrôle d'un invité de marque aujourd'hui. Et c'est justement la rencontre tant attendue entre Cédric Lapiche, cinéaste connu dans le monde entier, et Jérôme Lacroix, journaliste connu
à Jouy-sur-Morin, en Seine-et-Marne.
Jérôme, vous allez voir, Cédric, c'est vraiment la synthèse d'une parfaite connaissance du sport et d'un humour, que dis-je, d'un esprit ravageur. Démonstration lors de ce multiplex la saison passée.
Et victoire 2-1 de Strasbourg à Toulouse. Strasbourg-Toulouse qui, comme tout le monde le sait, est un derby. Le derby de la saucisse. Voilà, c'est ma vanne.
Là, je vous ai mis dans des bonnes conditions. Vous êtes lancé là, vous êtes sur les rails de la gloire. Là. Jérôme, vous avez promis une belle histoire aujourd'hui.
Oui, modestement et sans chercher à vous flatter, hein, Cédric Lapiche, j'ai voulu ce matin vous raconter cette petite histoire de sport. Oui, parce que je le crois, c'est ce qui nous lie, la passion du sport, ses émotions, c'est rien du tout, telles des poupées russes qui virent parfois au casse-tête chinois. Écoutez mon récit ici dans cette joyeuse auberge espagnole. Non, vraiment, sans chercher à vous flatter pour avoir les points de la victoire. Je voulais vous raconter l'histoire de ce gars-là. N'Golo Kanté, le joueur des Bleus, champion du monde. Si vous êtes avec nous sur Europe1.fr, je montre un superbe sourire d'N'Golo Kanté, popularité au zénith et pour cause. C'est une boule de gentillesse, un élixir de générosité. Je vous raconte sa dernière mignonnerie en date. Quand N'Golo Kanté se rend spontanément, juste pour faire plaisir, au mariage de l'un de ses plus grands fans, plus précisément de la fille d'un fan, un restaurateur, grand supporter de Chelsea, le club de Kanté à Londres. Ambiance du mariage. Alors voilà notre footballeur star, presque anonyme parmi la foule des invités, serrant des louches à l'appel et enchaînant autographes et selfies.
One, two, three,
voilà. Three cheese. En fait, Kanté, il avait été contacté par ce restaurateur, lui demandant si par hasard, bah, il pouvait venir au mariage. Alors au début, il avait dit non. Je peux pas, j'ai un match, il avait dit. C'est une bonne excuse quand on est footballeur pro. Match annulé parce qu'il s'est blessé. Kanté, du coup, il avait du temps libre et il a choisi de le passer à faire plaisir.
Mais c'est incroyable cette histoire. On peut dire qu'N'Golo Kanté est un habitué du genre, parce qu'en plus, c'est pas la première fois qu'il fait
exactement.
Un truc sympa.
Exactement. L'année dernière, il rate un train Londres-Paris. Il se rend alors dans une mosquée de Londres, pas loin de la gare. Là, il est reconnu par des fans qui l'invitent chez lui. Ok, il passe la soirée avec eux. Irréprochable, probité, un autre exemple. Il y a 3 ans, quand il signe un super contrat pour Chelsea pour environ 1 million d'euros par mois, il aurait refusé un montage offshore et le versement d'une partie de ses revenus dans un paradis fiscal. Il tenait à payer ses impôts.
Mais excusez-moi, ce qui est fou, c'est que lui soit comme ça. Mais normalement, les footballeurs sont très entourés. Il y a souvent des gens qui sont très intéressés alors, autour, leurs agents et tout ça. Comment il a pu refuser un montage ?
Humilité. Timidité, c'est son monde, construit dans une profonde foi musulmane et nourri par ses racines modestes. Son père était éboueur, sa mère femme de ménage. Alors oui, le monde paraît meilleur avec N'Golo Kanté et ses éclairs de gêné. Il joue pas en ce moment avec les Bleus, il est blessé. Donc d'ailleurs, s'il avait été là, jamais l'hymne de l'Andorre au lieu de celui de l'Albanie n'aurait été diffusé samedi soir au Stade de France. Alors, par ailleurs, j'en profite N'Golo, si tu m'écoutes, demain, c'est mon anniversaire, voilà.
C'est vrai, en plus.
En plus c'est vrai.
Vraiment votre anniversaire.
J'organise une petite fête.
On lance un appel. On est très fan N'Golo, nous aussi. Et on est très fan de Chelsea aussi. Hein.
Comme je travaille aussi sur la matinale d'Europe 1 à 20h15, tout le monde est au dodo. Je te dis, N'Golo, à demain.
Notre invité, grand amateur de sport, aura-t-il goûté l'anecdote de Jérôme Lacroix ? Repartirez-vous avec 3 points ou seulement vos yeux pour pleurer ? Le jugement de Cédric Lapiche tombera juste avant 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage se poursuit avec ma complice Eva Rock, qui passe, je crois, un très beau moment cet après-midi.
Oh, ça fait très longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça.
T'en faut pas beaucoup, hein.
À suivre, l'intelligence artificielle. L'avenir passe forcément par là, du coup, pour se donner un côté moderne. Certaines entreprises font croire qu'elles y ont recours, alors qu'en fait, ce sont des cerveaux bien humains qui bossent derrière.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, le premier championnat journalistique du monde. Chaque après-midi, un tournoi sans pitié entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui guerroient au service de votre bonne humeur et de votre culture G. À mes côtés, Eva Rock, Jérôme Lacroix, Anissé Mbida, notre invité d'honneur Cédric Lapiche pour la sortie de son film « Deux mois », mercredi en salle. On continue d'en parler ensemble, mais avant le retour de la compétition, c'est le moment de s'oxygéner en région.
Régional géographique.
Aujourd'hui, dans Régional Géographique, une belle histoire, celle du petit village de Retonvillé qui revit depuis une semaine. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour tout le monde.
Bonjour
notre
Lionel.
Correspondant dans le Nord. Qu'est-ce qui se passe dans ce village, Lionel ?
Eh bien Mathieu, dans ce village, depuis une semaine maintenant, on entend ça. Alors ça,
c'est
Mathieu,
pas les vaches, ça.
Non, c'est non. Pas les vaches, non. C'est la cloche d'une école. L'école qui résonne à nouveau donc, dans la cour de récréation, puisque 18 ans après avoir été fermée, eh bien, l'école a rouvert à la rentrée lundi dernier grâce, vous savez, à cette fameuse mesure de dédoublement de classe hein, en zone d'éducation prioritaire. Et justement, dans le secteur, faute de classes disponibles dans le regroupement scolaire des villages, eh bien, le maire, Philippe Lefebvre, a pu rouvrir donc une classe de CE1 avec 11 élèves, ce qui redonne vie à l'ancienne école.
Cette cloche, elle est d'origine alors ?
Oui, elle a toujours été là.
Vous n'avez jamais voulu la décrocher ?
Non, mais finalement, j'ai bien fait, vous voyez.
Vous avez été scolarisé, vous, dans cette école, monsieur le maire ?
Ah oui, oui, oui. J'ai usé mes fonds de culotte dans la première classe en maternelle, puis après, on passait en cours élémentaire et on finissait en cours moyen. Il y a encore les tilleuls dans la cour et je me souviens très bien, quand on était puni, mais moi, je n'étais pas souvent puni, on faisait le tour des tilleuls.
Et la salle de classe, alors ?
Alors, elle avait été transformée en petite salle des fêtes, en salle de réunion hein, pour les assos du coin. Et donc, cet été, ben, hop, 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 il a fallu la retransformer à toute vitesse en salle de cours avec tableau noir, casier table d'école, d'écolier, internet. Enfin bref, il a fallu réaménager tout ça tout au long de l'été.
Alors, on imagine que ça change la vie du village, bah, cette réouverture.
Et forcément, imaginez 18 ans que l'école était fermée, une école qui rouvre, c'est un petit miracle pour les parents et les enfants.
Ça va faire revivre le village, ouais. Sachant qu'il n'y a presque rien ici, donc il y a une école, c'est déjà pas mal.
Et la petite, elle est contente d'être à l'école ici ?
Oui, oui, c'est plus près. Avec maman, elle l'amène tous les jours.
Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ?
J'ai fait du collège, aussi des devoirs. Et j'aime beaucoup le maître.
Oh, elle aime beaucoup le maître. Ça dit pas choupi, ça, Eva. L'instituteur, justement, on imagine que lui aussi, Lionel, il vit cette renaissance avec une certaine émotion.
Bah oui, surtout que Benoît Antiochus est un enfant du pays et qu'il a un lien, vous allez l'entendre, très particulier avec cette école.
Bah, mon grand-père est dans cette salle de classe et mon père également. Donc,
c'est un retour aux sources pour vous.
Ah oui, non, bah oui, comme ma grand-mère est du village, donc ça fait bizarre, surtout de venir travailler dans ce village-là. J'espère rester plus longtemps, mais après on verra bien en fonction de la politique, parce que par rapport aux classes dédoublées, ça tombe dans 2, 3 ans, 4 ans, bah, on dira bah non, et le dernier arrivé, le premier parti.
On continue de croiser encore un peu
ah
les
oui,
doigts. Quoi.
Ah oui, j'espère, mais non, on verra bien.
Alors voilà, l'espoir ici, c'est que cette nouvelle école à Retonvillé incite les familles à venir s'installer dans le village. Parce qu'il faut bien dire que si l'école venait à nouveau à fermer, ça serait vraiment un crève-cœur.
Bon, on enverra Eva Rock pour être institutrice là-bas.
Il faut faire des bébés aussi, alors.
Il faut faire des bébés. Bah, ah, vous nous proposez aussi.
Bah, pour qu'il y ait des enfants dans la classe, il faut faire des bébés.
Heureusement qu'Eva est là pour repeupler notre belle France. Merci Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le nord de la France. Deux mois, c'est le titre de son film qui sort mercredi avec Anna Girardot et François Civil. Cédric Clapiche est notre invité jusqu'à 18h. Europe 1. À suivre dans l'équipée sauvage, ce championnat cruel mais rieur qui oppose désormais chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1, on va parler de l'intelligence artificielle. Depuis une expérience menée ici même avec une enceinte connectée qui avait un peu peiné à identifier la pourtant célébrissime Eva Rock. Alexa, qui est Eva Rock ?
Le baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine dans des villes telles que...
Depuis ce jour, on sait les progrès qu'a encore à accomplir l'intelligence artificielle. Mais il y a pire, ces entreprises qui font croire qu'elles ont recours à l'intelligence artificielle alors que ce sont en fait des cerveaux très humains qui font tout. A tout de suite.
L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue avec Eva Rock, Anissa Mbida, Jérôme Lacroix. 2 heures de rire et de découverte pour vous. D'angoisse et de stress pour eux. Il n'y avait aucune raison que l'ubérisation de notre société s'arrête au pied d'Europe 1, non. De même que vous notez votre livreur de pizza et votre chauffeur de taxi, vous pouvez désormais noter vos journalistes. Chaque après-midi, celui qui vous aura offert la meilleure info, la plus belle histoire, sera élu chroniqueur du jour. Pour les départager, vous bien sûr, mais également notre invité d'honneur Cédric Clapiche. Votre nouveau film « Deux mois » sort mercredi et lui non plus n'échappe pas à l'ubérisation de notre société. Les deux héros, Rémi et Mélanie, qui ont pourtant aucun goût, aucune prédisposition, on va dire, pour les réseaux sociaux, c'est plutôt deux inadaptés à la base. Et pourtant, ils vont être obligés de s'y mettre.
Absolument. Ouais, non, ils sont assez isolés, ils sont assez reluctants, comme on dit, à ces réseaux sociaux. Et puis finalement, comme ils sont très seuls, ils essayent, quoi.
Alors, on ne peut pas s'empêcher de comparer, je pense qu'Eva a pensé la même chose que moi en voyant le film, à comparer les époques entre le Péril Jeune, l'Auberge Espagnole et celui-ci. Pour moi, c'est trois temps différents.
Mais avec
où
une
la
inversion,
jeunesse,
en fait.
Exactement,
ouais.
Une inversion totale. L'époque beaucoup plus collective du Péril Jeune, où tout partait plus de la collectivité
aussi,
et de celui qui essaie de se distinguer de ça. Et aujourd'hui, c'est précisément en fait, l'inverse. On a l'impression que la société a basculé en 40 ans.
Oui, alors c'est presque conscient, je dirais. C'est-à-dire que même quand je faisais l'Auberge Espagnole et que je parlais de colocation, qui n'était pas tout à fait la même chose que les communautés hippies des années 70, c'était le côté on habite ensemble, mais on ne se connaît pas, on n'a pas envie d'avoir la même doctrine. Et puis, il faut partager le frigidaire et le téléphone. Et c'est compliqué d'opposer ce qui est individuel et ce qui est collectif. Là, aujourd'hui, c'est franchement individuel. Et même, je sais que les gens qui sont en colocation aux États-Unis, par exemple, ils ne mangent pas ensemble. Ce qui est quand même une espèce d'étape qui fait que voilà, il n'y a pas le partage du repas, quoi.
On parlait tout à l'heure des séries. Moi, je vous attends beaucoup sur une série parce que j'aime bien ce format-là. Et je pense que vous pouvez développer votre univers dans une série. Est-ce que vous avez le temps, vous, de regarder la télé, même des films ou des séries
Ou est-ce que vous êtes dépassé par le travail?
Oui, non, je,
vous êtes un gros consommateur.
Ouais, j'aime bien la télé, ouais, je regarde. Ouais.
Saviez-vous que selon une étude de l'université d'Oxford, je suis fier de ma petite étude, on perd désormais en moyenne 17 minutes chaque soir à bugger devant l'écran d'accueil de Netflix ou de toute autre plateforme, parce qu'on juste, on ne sait pas quoi choisir, on a tellement l'embarras du choix aujourd'hui. Ouais. Exactement. Heureusement, pour trouver notre bonheur dans tout ça, il y a désormais Eva Rock et ses 17 minutes de gagner. Alors Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Alors, juste avant de vous parler du programme du soir, je profite quand même de la présence de Cédric Clapiche pour vous conseiller une plateforme que vous avez créée avec d'autres cinéastes français, dont Laurent Canté, et une plateforme qui s'appelle Cinétech. C'est absolument formidable. Plateforme pour découvrir les trésors du cinéma et qui sert aussi de plateforme SVOD, de service de vidéo à la demande. Vous pouvez louer vos films sur Cinétech. Moi, j'adore cette plateforme. Je loue mes films sur cette plateforme. C'est absolument formidable. Je ne sais pas si vous continuez à participer à cette aventure.
Oui, complètement. Je suis assez actif, ouais. Pas ces jours-ci avec la sortie du film, mais en tout cas, ça s'appelle
lacinetech.com.
C'était presque bien, Eva. Vous aviez presque juste.
Non, j'ai pas dit lacinetech, c'est vrai. Pour ce soir, je vous conseille une fiction de TF1 qui est diffusée à 21h.
Ouais, ça vous arrive pas tous les jours.
Non,
ça.
C'est vrai. Que vous pouvez voir et revoir sur le site mytf1.fr. C'est une fiction qui est intitulée Jamais sans ma fille Luna. En fait, c'est l'histoire vraie de Sabrina et Johan. Ils ont une vingtaine d'années. Ils sont parents d'une petite Luna. Ils débarquent à l'hôpital avec leur fille qui est couverte d'hématomes. Les services sociaux sont alertés par le médecin. Garde à vue des parents, retrait de l'enfant qui est alors âgé de 3 mois. Et pourtant, dès les premières minutes du drame, la maman, Sabrina, n'avait cessé de répéter qu'elle était atteinte d'une maladie orpheline qui provoque ce genre de blessure, mais personne ne l'a écoutée. 3 ans plus tard, à la veille de leur procès et alors qu'ils ne voient leur fille qu'une heure par semaine, les époux trouvent un début d'oreille attentive auprès d'une pédopsychiatre.
En tout cas, un an avant la naissance de Luna, la WASH n'avait même pas de nom. Les médecins ne savaient même pas ce que c'était et maintenant tout le monde nous donne des leçons.
Je ne vous donne pas de leçons, j'essaie de comprendre.
Depuis que je suis toute petite, on me donne perdante. 1500 cas d'AOH. D'abord, on m'a bourré de médoc. Et ensuite, à cause du traitement, on m'a dit que je pourrais jamais avoir d'enfant. Puis il y a eu Luna. Et maintenant, Léo. C'est un miracle pour Yohann et moi. Alors comment vous pouvez imaginer qu'on ait pu la frapper ou lui faire du mal? Vous avez raison, vous n'êtes pas là pour nous aider.
Alors avec un tel sujet, il était facile de tomber dans le pathos, dans le larmoyant. C'est absolument pas le cas. Le ton est juste et relate plutôt bien le parcours de ses parents combatifs. C'est une histoire vraie. Ils ont déjà raconté cette histoire, les parents, dans un livre. Là, c'est vraiment mis en fiction avec un joli casting. Rod Parado et Chloé Jouanet dans le rôle du couple. Alice Taglioni dans celui de la pédopsychiatre. C'est très réussi, en tout cas. Et sauf erreur de ma part, Cédric Clapiche, vous n'avez jamais adapté un fait divers ou une affaire qui a réellement existé dans un de vos films?
Non, je crois pas, effectivement.
Ça vous aurait, ça vous plairait, ça serait une chose envisageable.
C'est très possible, ouais, non, ça serait possible.
Alors ça s'appelle Jamais sans toi, Luana, et c'est à voir sur TF1.
Sur TF1. Ouais. Merci Eva, 17 minutes de gagner, bien joué. Europe 1. L'équipe est sauvage, la folle compétition des journalistes d'Europe 1 continue avec l'entrée en piste d'un des cadors de notre championnat. Actuellement deuxième, Anis Mbidad, notre expert innovation, est convaincu de l'emporter aujourd'hui avec son sujet sur ces entreprises qui nous font croire qu'il y a de l'intelligence artificielle là où il n'y en a pas. Vous êtes très confiant, hein, Anissé. Vous me semblez confiant.
Oh, j'ai les pilés de mon critérium. Oh, j'ai une pêche, les gars.
Souvenez-vous, il y a eu des retournements de situation. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures d'un combat fratricide que même Tarantino trouverait choquant. Chaque après-midi, 4 journalistes de la rédaction s'affrontent pour le titre de chroniqueur du jour sous l'œil cruel mais juste de notre invité arbitre, Cédric Clapiche, venu fêter la sortie de son nouveau film, 2 mois, mercredi en salle. Cédric, vous avez déjà entendu 3 journalistes, mais tout peut encore basculer car voici Anis Mbidad. Un spécialiste innovation dont il vous faudra vous méfier car pour séduire l'invité, il est prêt à tout, comme par exemple à faire croire à Renaud Capuçon, notre invité mardi dernier, qu'il partageait sa passion pour les arts lyriques.
Moi je vais être obligé de vous quitter un peu tôt malheureusement.
Ouais, toi tu vas à l'opéra après?
Oui, enfin je vais pas à l'opéra, je vais à Opéra.
Je vais à Opéra dans une pizzeria en fait.
C'était bien tenté, hein. Mais il voulait laisser planer le doute, et puis finalement c'était une pizzeria, hein. C'était Pizza Pino. Alors Anissé, de quoi vous nous parlez aujourd'hui mon cher Anissé?
Bah, j'essaie de faire un petit peu d'infos, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour changer, terminer avec quelque chose d'un peu plus sérieux qu'on va pouvoir raconter un peu ce soir. Et puis surtout, moi aussi c'est une histoire feel good, je vais faire dans l'histoire feel good. On nous dit que l'intelligence artificielle va nous asservir, va nous transformer en esclaves, que les intelligences artificielles vont devenir supérieures à l'intelligence humaine. Moi j'ai une bonne bonne nouvelle à vous annoncer, ce n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas avec longtemps. On a beaucoup d'arnaques à l'intelligence artificielle. Il y en a quasiment une par mois. La dernière en date, c'est celle de la société qui s'appelle KiwiBots. Elle fabrique des petits robots livreurs, vous savez, qui, bon, ça se passe aux États-Unis, hein, on met son Deliveroo, son Uber Eats dedans, et elle vient vous livrer directement chez vous, cette petite robot. Sauf qu'on s'est rendu compte de quoi ? Et bien qu'en fait, ces robots livreurs autonomes étaient pilotés par des Colombiens payés 2 euros par heure.
Des Colombiens nains, alors ? Des
petits Colombiens ? Non, ils étaient pilotés, télécommandés à distance, en fait, ces robots.
Ils
non, ils n'étaient pas à l'intérieur.
Ça aurait été encore plus. Ça aurait été encore plus.
Parce que c'est très, très compliqué de faire des robots qui ne se rendent pas n'importe où dans les gens, qui ne restent pas coincés sur un trottoir. Donc, ils étaient télécommandés.
Certains robots rentrent dans les gens. Hein.
Et va à distance.
Qu'est-ce que vous dites ?
Non, j'ai dit une horreur.
Il y a énormément d'exemples. Par exemple, une société qui s'appelle Engineering AI qui a lancé une application. Vous racontez, j'aimerais bien avoir une application mobile. Je suis un grand cinéaste, je veux une application mobile. Et il la fabrique tout seul avec une intelligence artificielle. Sauf qu'on s'est rendu compte que là encore, c'était des petits Indiens qui, eux, programmaient à la main derrière. Et des exemples comme ça, il y en a quasiment toutes les semaines qui sortent. Vous avez un service qui convertit vos messages vocaux en texte. Oui. En fait, c'était des humains qui tapaient le texte derrière. Il y a des faux robots conversationnels. On a l'impression de faire un chatbot, c'est-à-dire qu'on parle à un robot. Et en fait, c'était des vraies personnes humaines qui vous répondaient derrière. Des exemples comme ça, il y en a des tas et des tas et des tas tous les jours.
Bah, c'est bien beau vos exemples à Nice, mais ça, ce sont des petites startups en manque de financement.
Eh ben non, c'est vrai que quand on dit intelligence artificielle aujourd'hui, on n'a qu'à secouer un arbre, il y a des financements qui tombent. Mais non, non, non. Vous vous souvenez peut-être de Google. Google, on en a parlé ensemble.
Oui, je me souviens de Google. Il est pas très bon, mais quand même.
Non, mais ici même, chez Europe 1, on avait parlé de ce nouveau service que Google avait sorti, où l'ordinateur, l'intelligence artificielle, pouvait prendre un rendez-vous à notre place.
Ah oui, tout à fait.
Parler au téléphone, c'était bluffant. Et elle pouvait appeler un service pour réserver un hôtel, réserver un coiffeur,
c'était
etc.
C'était du bluff.
Eh bien, ils ont avoué que 40% du temps, c'était des êtres humains, des téléopérateurs humains qui faisaient les opérations. Parce que là, il se trouve que cette intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça. Il faut passer la main. Vous avez aussi entendu toutes les polémiques sur les Amazon Alexa, sur les Siri qui nous écoutent. Pourquoi ils nous écoutent ? Eh bien, parce que souvent, on pose des questions, ils répondent complètement à côté, qui est Varok, etc.
Le Varok est un courant
bien,
musical.
Dans ces cas-là, quand il y a des erreurs, c'est remonté automatiquement à des opérateurs humains qui, eux, font la connexion, ils font les relations directement à la main, comme nous, on ferait. Donc, on nous fait croire que ces systèmes-là sont extrêmement intelligents, qui sont extrêmement perfectionnés, mais on oublie qu'à la base même de cette intelligence artificielle, il y a un système qu'on appelle le deep learning. Alors, qu'est-ce que c'est que le deep learning ? C'est l'apprentissage profond, comme on dit, mais cet apprentissage-là est fait grâce à des humains. Ce sont des humains qui disent à l'intelligence artificielle, bah ici ça c'est un arbre, ici c'est un feu rouge. Et il y a besoin des humains derrière à chaque fois pour faire ces opérations. Donc plus l'intelligence est bonne, et bah plus il y a d'humains derrière malheureusement.
Finalement c'est rassurant quelque part.
Bah, c'est pour ça que je dis que c'est une histoire feel good.
Cédric Lapiche, on parlait l'autre jour de ça avec Mathieu Charry, notre spécialiste cinéma. Il paraît qu'il y a maintenant l'intelligence artificielle qui va se mêler du montage des films. Les séances, les fameuses séances de projection pour voir si ça plaît au public.
Test, hein,
Il y aura toujours un public apparemment, mais il y a une caméra
faciale
qui vous filme, reconnaissance faciale. On voit à quel moment vous riez, à quel moment vous baillez. Et ensuite on vous dit, Monsieur Clapiche, le film est bien, mais là, à cet endroit, il y a un bâillement, il va falloir corriger le montage. Ça, vous accepterez cette dictature-là ou pas ?
Si c'est des Mexicains qui regardent, qui disent, moi j'ai l'impression qu'il a parlé à ce moment-là.
Il y a des Césars derrière, qui est derrière, qui est en train de colmater. Mais vous savez qu'on est tous mis à contribution par les intelligences artificielles. Vous savez, quand on vous demande sur Internet, est-ce que vous êtes un humain ? Ils demandent quel est le feu rouge ? Est-ce que c'est un feu rouge ou c'est le feu rouge ?
Et moi, c'est là que je réalise que je ne suis pas un humain parce que j'arrive jamais à trouver la bonne réponse.
Et ben, il se trouve ce sont des cas où les intelligences artificielles n'arrivent pas à déterminer si c'est un feu rouge ou si c'est un bus et on demande à des humains de valider. Et c'est comme ça qu'on leur reconnaît en fait.
N'Golo Kanté, le film à 1000 euros, le dernier Piketty ou l'intelligence, pas si artificielle que ça, quel sujet aura la faveur de notre invité ? Laissons-lui le temps de la réflexion. Son nouveau film s'appelle Deux mois, il sort mercredi. Cédric Lapiche passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipe sauvage. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se tirent la bourre au service de votre culture G. Je veille personnellement à ce que la motivation reste maximale. Mon secret, un management à l'ancienne.
Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des toutous sous la douche, tas de cons.
Dur avec mes équipes, je suis en revanche tendre comme un agneau avec vous. Puisque je vous connais, vous avez encore oublié de faire les courses pour le dîner de ce soir. Eh oui, heureusement, il y a Delice in Extremis, la rubrique qui vous sauve la mise avec une recette dernière minute qui fera mouche. A tout de suite.
L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
L'équipe sauvage continue avec notre invité d'honneur Cédric Lapiche. Son nouveau film Deux mois sort en salle mercredi. Il met en scène deux jeunes confrontés à la solitude des grandes villes en 2019. Et on y retrouve vos acteurs désormais fétiches. On en parlait tout à l'heure, Anna Girardot et François Civil, qui jouaient déjà dans votre précédent film, Ce qui nous lie. Un film qui avait beaucoup plu à celui que je m'apprête à vous présenter. Vous avez d'ailleurs dû le croiser en Bourgogne, où il passe beaucoup de temps. Son préféré dans la vie, c'est... Olivier Poul, c'est notre expert gastronomie et accessoirement, il est rédacteur en chef à la Revue du Vin de France. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu, bonjour Cédric Clapiche. Effectivement, Ce qui nous lie est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, figurez-vous, Cédric, que je ne suis pas très loin de l'endroit où vous l'avez tourné.
Où êtes-vous, Olivier ?
Ben, je suis du côté de Meursault, voilà, dans cette belle Bourgogne, entourée de vignes. Et je sais que c'est là qu'a été tourné le film.
Est-ce que vous pouvez ramener quelques bouteilles de Meursault, Olivier Pouls ?
Il ne dispose pas de ça, je crois, dans sa cave. Mmh. Non. Mmh. J'ai jamais eu de Meursault chez vous.
Je vous en rapporterai, c'est promis. Mais étant en Bourgogne, la logique voudrait que je vous propose un plat bourguignon quand même.
Tout à fait, ça serait assez logique, effectivement. C'est pas le cas.
Eh bien si, c'est le cas. Figurez-vous que je vais vous faire une grande spécialité d'ici que Cédric Clapiche connaît très certainement. Ce sont les œufs meurettes. Mmh. C'est un plat traditionnel, facile à faire. Et surtout, vous m'avez donné un challenge pour
exactement,
cette semaine,
Olivier.
C'est de faire des plats très abordables à moins de 10 euros.
Voilà, c'est mon défi. Allez-y.
Eh bien, ce sera tenu, ne vous inquiétez pas. Donc, pour faire ces fameuses œufs meurettes, qu'est-ce qu'il vous faut ? Bien, il vous faut forcément des œufs. Alors, on va prendre des œufs bio, un œuf par personne. Bon, il vous faut des oignons ou des échalotes. Ça, c'est peut-être un peu moins logique, mais il faut quand même. Il vous faut des lardons, on va dire 120 grammes de lardons pour 4 personnes. Un beau verre de vin rouge. Alors, pas la peine de prendre du Gevrey Chambertin, mon cher Mathieu, dans votre cave. Un verre de vin rouge ordinaire fera l'affaire.
Un simple Chambertin tout seul suffira.
Exactement, si vous voulez. Et puis, une cuillère à soupe de farine et une petite poignée de champignons de Paris. Pour le déroulement, c'est très simple. Première étape, c'est la sauce, la fameuse sauce meurette. Donc, vous allez faire revenir vos lardons dans une poêle bien chaude, vous les colorez, vous rajoutez oignons, échalotes émincés, vous rajoutez vos champignons de Paris que vous avez lavés et coupés en petits morceaux, vous saupoudrez d'une petite cuillère de farine, ce qui va permettre de lier tout ça, et puis vous mouillez avec votre verre de vin et vous allez laisser cuire, réduire cette sauce jusqu'à ce qu'elle s'épaississe. Oh, il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Et pendant ce temps-là, vous allez vous occuper de la cuisson de vos œufs.
Ah, j'ai cru que vous allez dire, pendant ce temps-là, on s'ouvre une autre bouteille pour là prendre l'apéro. J'ai cru que c'était ça, la suite de la recette.
Oui.
Parce qu'en fait, dans la réalité, c'est ça avec vous, hein, quand vous préparez un œuf meurette.
Bah oui, ça va sans dire qu'on cuisine toujours en buvant un petit verre de vin.
Avec modération néanmoins, oui.
Oui, on a le geste plus sûr, l'inspiration qui vient et l'appétit qui s'ouvre.
C'est ça.
Oui, avec modération, Olivier. Oeufs. Et donc, les œufs.
Et donc, la cuisson des œufs, c'est relativement simple là aussi. Alors, deux méthodes. Soit vous savez les pocher, c'est-à-dire de l'eau frémissante dans laquelle vous avez versé un petit peu de vinaigre et vous créez, vous savez, un tourbillon dans la casserole. Et ensuite, vous cassez vos œufs dans un petit ramequin, vous les posez au centre de ce tourbillon. Et comme par magie, le blanc va venir enrouler le jaune et les œufs vont se reconstituer en quelque sorte. Vous les laissez cuire environ 3 minutes. Mais si vous ne savez pas faire ça, très simple, vous pouvez tout simplement faire des œufs mollets. Les œufs mollets, c'est cuisson 6 minutes dans de l'eau frémissante. Là, il n'y a pas besoin de les casser, bien sûr. Mais après, il faut les écaler très délicatement. Et pendant ce temps, vous avez vidé votre bouteille de vin à l'apéro. Vous avez votre sauce qui a réduit. Vous avez fait toaster un petit morceau de pain. Et vous êtes prêt à passer à table.
Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Lorient Mariotte à 11h sur Europe 1. Cédric Clapiche, vous filerez ses coordonnées quand on aime le Bourgogne. Ça peut toujours servir. Deux mois, c'est le titre de ce très beau film qui sort mercredi avec Anna Girardot et François Civil. Monsieur Cédric Clapiche, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Le dénouement est proche. Dans le studio Coluche, arène de leur affrontement, chacun retient son souffle. Qui se prosternera devant moi pour que je dépose sur sa noble tête la couronne de chroniqueur du jour ? L'attention est à son comble, c'est presque aussi excitant que la soirée underground Schtroumpf coquin à laquelle a participé Jérôme Lacroix ce week-end. Au fait, ça s'est bien passé ?
C'était bien, c'était bon, c'était bleu.
Oui, mes hommages à la Schtroumpfette. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Il serait sadique, les amis, de prolonger le suspense. Voici la finale de l'équipe est sauvage. Qui sera désigné chroniqueur du jour si quelqu'un a un argument supplémentaire à faire valoir pour séduire notre invité ? Oui, Anissé ?
J'ai un petit boîtier magique.
Non, Anissé, non, toute proposition indécente est interdite par le règlement. Votre sujet sur ces entreprises qui font semblant d'avoir recours à l'intelligence artificielle était pas mal, mais n'oublions pas que les 1200 pages du dernier bouquin de Piketty, résumé par Axel de Tarlé, c'était bien aussi. Ce film monté pour 1000 euros, proposé par Mathieu Charrier, intéressant, sans oublier la belle histoire d'N'Golo Kanté, le footballeur au cœur d'or, qui l'emportera ? Il est temps, Eva Rock, de découvrir le vote du public.
Alors
on dirait Arletti, alors
N'Golo Kanté, évidemment, à 32%.
N'Golo Kanté qui triomphe, alors attendez.
Combien deux points pour Jérôme Lacroix.
Deux points, je le note. Mes deux points. Tiens, je n'ai pas réfléchi à qui j'allais octroyer mes deux points aujourd'hui.
Non, un point, vous octroyez un point.
Oui, c'est vrai. Mais si je décide, tout à coup, si je décide d'en avoir deux, c'est possible.
Écoutez, c'est déjà la pagaille.
J'accorde un point à Anissé Mbida. J'adore tout ce qui est sur l'intelligence artificielle et puis j'adore Anissa Mbida. De toute façon, donc un point, deux points. Le grand moment est venu. Je vous aime aussi, Mathieu, Axel. Mais c'est notre invité d'honneur qui tranche. Vous le savez toujours, Cédric Lapiche, pour qui avez-vous voté aujourd'hui?
C'est atroce. Non, moi, je vais être extrêmement consensuel. J'ai beaucoup aimé tous. parce que j'ai bien aimé ce résumé, ce qui m'a permis d'éviter de lire les 1200 pages de Piketty. Ce qui est dit sur l'intelligence artificielle et sur les robots, où finalement on voit que les humains sont mieux que les robots, c'est un peu ce que raconte mon film, donc j'aime bien. Mathieu Charrier, moi j'aime beaucoup Avzia Herzi et j'aime bien cette histoire, effectivement, qui n'est pas très convention collective, mais qui a le mérite de faire exister les films. Le plus consensuel, c'est Jérôme Lacroix. Parce que j'adore N'Golo Kanté et donc voilà.
Et voilà comment on gagne facilement une émission sans lire 1200 pages d'un bouquin économique, mais juste en citant N'Golo Kanté. Bravo Jérôme Lacroix.
Je lui dédie cette victoire. Celle-ci, N'Golo.
Je pense que ça va toucher.
Il nous écoute.
Il va certainement venir demain pour votre anniversaire. Il est sympa pour fêter ça. On remercie Cédric Lapiche. Donc, on
deuxième
donne le classement.
Venez,
venez, venez que je vous couronne, s'il vous plaît. Il y a quand même un rituel dans cette émission. Je vous prie de le respecter. C'était la 11e édition de L'Équipée Sauvage en présence de Cédric Lapiche. Son nouveau film, Deux mois. Sort mercredi. On était ravis de le recevoir, d'autant que ça tombait hyper bien. Jérôme Lacroix, vous pouvez lui dire maintenant, dans le monde du cinéma, vous avez une idole.
Robert Redford.
Bah non, Cédric Lapiche, je pense, c'est bon, un point au moins. Cédric Lapiche, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1. Merde pour mercredi, comme on dit dans le milieu. Merci également à ma Dream Team de la rédaction, Eva Rock, Mathieu Charrier, Anissa Mbida, Jérôme Lacroix, Axel de Tarlet. L'Équipée Sauvage revient demain, 16h.
L'Équipée Sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.